savourer nos différences.
Pop Flash, l'émission pop culture, jeux vidéo, manga, films, séries, animations, jeux de rôle et internet. Présenté par Mel J.R. un mercredi sur deux sur Radio G.
Sur Radio G, on se retrouve encore une fois pour Pop Flash. Je suis JR et je vous retrouverai pour cette énième émission où on parle de pop culture tout simplement. Première émission de mai, on vient de passer le 1er mai. J'espère que votre week-end s'est très bien passé et que votre prochain week-end long se passera bien. Car après tout, le mois de mai, c'est le mois tout simplement des week-ends prolongés. Et comme d'habitude, je suis accompagné de Kezia, de Mel. Mel, comment tu vas?
Écoute, ça va très bien, merci. Et toi, comment ça va?
Écoute, ça va très très bien. Ouais.
On a eu pas mal de galères. Pardon, je t'ai coupé. Pas mal de galères avec l'émission, surtout au niveau des enregistrements, etc. Parce qu'on a eu du mal à jongler, mais
après tout, ce sont des choses qui arrivent. On va pas se mentir.
Oui, mais là ça va. Revient en forme.
Là, on revient en forme. Et de toute façon, on n'est pas prêt de partir. Enfin, moi, en tout cas, je ne suis pas prêt de partir. Toi, je ne sais pas.
Moi non plus.
Mais de toute façon. au programme du jour, comme d'habitude, on va commencer par Game Pop qui sera présenté par toi. Ensuite, on pourra tout de suite enchaîner avec une petite pause musicale. Et aujourd'hui, on va aller dans un de mes animés préférés, Cowboy Bebop. Et on pourra ensuite partir tout simplement sur autre chose. Et du coup, reprenons tout simplement. On se retrouve du coup avec Game Pop, puis on parlera du coup de qu'est-ce qu'on lit. Entre temps, il y aura une petite pause musicale parce que on va plonger dans l'univers musical de un de mes mangas préférés, animé préféré plutôt. On se retrouvera tout de suite après pour en qu'est-ce qu'on lit, probablement en Pop and Clap. Et si on a le temps, on parlera de JDR avec évidemment une deuxième pause musicale. On se retrouve du coup juste après du coup ce premier petit jingle. A tout à l'heure, et après ce sera Game Pop. Actu et test jeux vidéo, c'est Game Pop avec Mel.
Comme vous le savez, dans la chronique Game Pop, j'aime vous parler de Nintendo, et plus particulièrement de la Nintendo Switch. En même temps, il y a de quoi faire. Mais là où avant nous parlions surtout rumeurs concernant la Nintendo Switch 2, eh bien l'heure est venue de passer au concret. Préparez-vous parce que vous allez voir qu'il y a du lourd. Le 2 avril 2025, un Nintendo Direct concentré sur la Switch 2 a pointé le bout de son nez. Et voici tout ce qu'on sait. La date de sortie pour la console est prévue pour le 5 juin. Elle sera proposée en pack avec le tout nouvel opus Mario Kart World, le 9e jeu de la licence. La Nintendo Switch 2 proposerait une nouvelle fonctionnalité, comme par exemple les Joy-Con qui sont désormais magnétiques, remplaçant les rails de la première Switch. Un mode souris est introduit pour certains jeux avec une fonction gyroscopique, même si honnêtement j'ai encore des doutes sur le bon fonctionnement de ce mode. Un bouton C permet d'activer le Game Chat, une fonction de chat vocal avec micro intégré et réduction de bruit. Ce service sera gratuit jusqu'au 31 mars 2026, puis réservé au Nintendo Switch Online payant. Un port USB-C situé sur la tranche supérieure de la console permettra de brancher une caméra accessoire, ouvrant la voie à de nouvelles interactions. En gros, vous pourrez avoir une sorte de Discord directement sur la Switch. Le jeu phare du lancement, Mario Kart World, sera le titre principal accompagnant la sortie de la Switch 2. Voici ses principales caractéristiques. Monde ouvert, les circuits sont interconnectés permettant une exploration libre entre les courses. Mode de jeu, Grand Prix, Knockout Tour, élimination des derniers, Team Time Trials, Balloon Battle, Coin Runner, On est toujours en galère quand c'est de l'anglais. Nouveaux objets, Coinshade, Ice Flower, Hammer, Mega Mushroom, Phaser et l'objet Kamek qui transforme les adversaires. Mécanique inédite, Charge Jump, Wall Ride, Dash Food, débloque des tenues, Rewind, rembobinage pour s'entraîner. Multijoueur, jusqu'à 4 joueurs en local et 24 en ligne avec Game Chat intégré et compatibilité avec la nouvelle caméra. Zelda Breath of the Wild sur Switch jeu fait polémique. Une version optimisée de The Legend of Zelda Breath of the Wild sera disponible sur Switch 2 avec des améliorations graphiques et des performances. Cependant, le jeu sera vendu 79,99€ sans inclure les DLC du Expansion Pass. Les DLC seront proposés séparément pour 10€ supplémentaires. Les abonnés du Nintendo Switch Online plus pack additionnel auront accès à cette version sans coût additionnel. Cette politique tarifaire a suscité des critiques au sein de la communauté. Mais la Nintendo Switch ne s'arrête pas là. Lors du Nintendo Direct, on a pu voir que des jeux tels que Elden Ring seront disponibles sur la future console. Si vous souhaitez en voir plus, je vous conseille d'aller sur leur chaîne YouTube Nintendo. Vous pouvez retrouver toutes les annonces complètes. Pour le prix de la console, ça reste encore à définir en euros. Mais Nintendo a annoncé que la Switch 2 avec le jeu Mario Kart sera vendue au prix de 499,99€. Un prix qui divise la communauté des joueurs. Certains trouvent ça trop cher, tandis que d'autres trouvent que c'est le prix normal pour une console de ce type. Qu'est-ce que vous en pensez, chères auditrices et auditeurs? N'hésitez pas à nous le dire. Et toi, JR, un avis sur la nouvelle console? Sur le prix?
Personnellement, je trouve ça beaucoup trop cher. Après, faut savoir qu'on a appris ça il y a un certain temps et on vient d'apprendre notamment que les consoles de Microsoft allaient aussi augmenter leur prix. Et c'est pas une petite augmentation, on parle de 150€ tout de même. Bientôt, ce sera au même prix que tout ce qui va être PS5, tout ça. Je trouve que sincèrement, plus on avance, plus les constructeurs de jeux vidéo nous prennent pour des pigeons. Alors, j'entends bien le fait que oui, ça coûte cher de faire un jeu vidéo, que oui, vous savez, l'inflation, ça touche tout le monde, la pauvre Lucette, tout ça. Mais enfin, pour l'instant, actuellement, rien ne justifie le prix de 80€ pour un jeu. Rien ne justifie le prix de 80€ pour un jeu pour le nouveau Mario Kart, qui est simplement une amélioration en fait de Mario Kart 8 avec même pas une si belle augmentation graphique. Ils ont repris les mêmes modèles et ils les ont fait transitionner. J'ai un peu l'impression, désolé, mais de me faire, désolé du langage, mais de me faire enculer comme un joueur de FIFA se ferait enculer tous les ans. Et ben j'aime pas ça en fait, tout simplement. J'ai joué en jeu et j'ai pas envie de payer 10 balles de plus que ce que j'ai déjà, plus les 25€ pour les DLC, parce qu'on n'oublie pas les DLC de Mario Kart qu'il y a eu
c'est
avant.
C'est pas Mario Kart, c'est
Breath of the Wild. Ouais, c'est Breath of the Wild, mais Mario Kart c'est pareil.
Ah oui.
Ce sera 80€. Et j'avoue que bah genre pour les gens qui ont payé 80€ puis 75€ pour les 3 DLC et là maintenant on leur dit "Eh, regardez, on a rajouté une vache jouable." Payez 80 balles et payez 80 balles, voire 90 balles si vous le voulez, pas en format dématérialisé. On connaît Nintendo, on sait très bien comment ça marche quand ils décident de faire un changement de truc. En règle générale, le online se finit. Donc en gros, là, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est payer presque 100 balles pour un jeu qui, dès qu'on aura une nouvelle console, en fait, ne vous appartiendra pas. Et je pense que c'est plutôt un avis qui va être général. J'en ai ras-le-bol qu'on nous prenne pour des vaches à lait. J'en ai ras-le-bol que le prix du jeu vidéo devienne de plus en plus grand. Je suis PC Master Race et même sur le PC, ça commence à se voir. Et encore beaucoup moins. Mais on n'est pas des vaches à lait. Et parfois, pour le coup, et ça, ce sera peut-être mon avis personnel et je vous invite à vous donner le mien, je comprends pas que les gens ne râlent pas un peu plus. Genre, oui, Nintendo, c'est cool. Oui, c'est notre enfance. Mais à un moment, faudrait peut-être les envoyer se faire mettre, tout simplement.
Moi, je suis encore très mitigée par rapport à ça. J'attends d'en savoir plus. J'attends de voir ce qu'ils vont faire parce que justement, y a beaucoup de gens qui ont râlé. Donc, est-ce qu'ils vont corriger ça? Est-ce qu'ils vont améliorer certaines choses? J'avoue que moi, je suis hype déjà par certains jeux qui seront sur Switch, pour l'instant, quand même, je pense que je vais pas l'acheter day one, ça c'est sûr et certain. sachant qu'on a une Switch OLED à la maison.
Oui. Parce que ça aussi, on peut en parler, hein, du fait qu'ils aient retiré le OLED et qu'ils le vendent 500 balles. Genre là, littéralement, on va payer presque 600 balles pour une console qui a autant de caractéristiques que la PS4. Même pas qu'une PS5, qu'une PS4. Et je vais être complètement franc, pour le prix auquel on paye, autant acheter un Steam Deck en fait. Ouais, c'est un PC portable que tu peux, enfin c'est une console portable qui est comme un PC avec tous tes jeux Steam et qui coûte moins cher pour de meilleures performances. Genre à un moment.
Mais du coup t'as pas les jeux Nintendo. C'est ça le truc. Parce qu'il y a des exclus Nintendo donc.
T'as pas les jeux Nintendo.
Non mais oui vraiment. Donc je sais pas. Moi je suis encore très mitigée. J'ai vraiment des doutes sur cette rumeur comme quoi les jeux vont coûter 80 balles.
Ça a été confirmé.
Je pense que ça va baisser. Après, il ne faut pas se mentir, tout devient cher. Sans rentrer dans la politique, mais tout devient cher. Je pense que aussi les coûts de la Nintendo Switch 2 sont plus chers parce qu'ils ont mis un ventilateur Nvidia, etc. Donc, c'est des matériaux qui coûtent encore plus cher qu'avant. Donc, forcément, ils augmentent les prix.
Désolé, c'est du bullshit pour le coup.
Je
te réponds parce que pour le prix auquel ils vendent la Switch, tu peux avoir un PC de meilleure qualité.
Oui, mais encore une fois, c'est un PC. C'est pas la même chose que la Switch.
C'est pas la même chose, sauf que normalement, ça devrait pas, pour avoir quelque chose de meilleure qualité, ça ne devrait pas coûter plus cher. Là, tout ce qu'il, en fait, il justifie ça en disant que ça coûte cher, sauf que la vérité, c'est qu'ils s'en mettent déjà plein les poches.
Oui, bien sûr.
Nintendo, c'est des requins par rapport à leur jeu. C'est des requins. Remettre le nouveau Zelda Tears of the Kingdom pour le faire plus cher, c'est, des chiens. Alors, c'est vraiment des chiens.
C'est même pas Tears of the Kingdom, hein, c'est le premier. Breath of the Wild.
Ah, c'est des...
Et en plus, du coup, ceux qui ont déjà le jeu pourront transférer du coup sur leur enceinte Switch l'ancien jeu. Mais ça sera, de ce que j'ai compris, mais c'est pas très clair encore cette histoire de Breath of the Wild. En gros, il sera un peu remasterisé. Mais en même temps, pas trop.
Tu te rends compte qu'on parle d'un jeu remasterisé qui est sorti il y a moins de 10 ans? Genre, je suis désolé, mais ils nous prennent vraiment pour des cons.
Non, mais en vrai, je sais pas trop, mais c'était, ils sont pas encore très au point sur ça, j'ai l'impression.
Ils sont jamais au point.
Pour le coup, je pense que, en fait, ils ont annoncé trop vite certaines choses et je pense qu'ils ont été au sujet de nombreux leaks et tout ça et je pense qu'ils ont été obligés de sortir à la hâte certains trucs. Et du coup, je pense
c'est pas une excuse.
Ils ont peut-être pas encore assez bien réfléchi sur certaines choses. Mais voilà, c'est pour moi.
Admettons que t'aies raison et que vraiment ils aient pas réfléchi. Tu te rends compte du manque de professionnalisme que ce serait quand même.
Oui, mais après, bon.
Je sais que toi t'y tiens et que du coup ça te met pas très à l'aise.
Non, c'est pas que j'y tiens ou quoi, c'est juste que je suis encore mitigée parce que j'attends d'avoir le retour des autres achetés pour moi et faites-moi un retour de la Switch 2 et puis on verra ce que ça donne. Mais je sais pas. Moi,
c'est sûr que je suis colère.
Alors moi, c'est sûr que je vais pas l'acheter tout de suite. J'attends de voir les exclusivités Switch 2, voir ce qu'ils vont sortir. S'il y a des jeux qui me hype ou pas, notamment s'il y a un nouvel opus Animal Crossing qui a l'air incroyable, comme les leaks en parlent depuis des années, je pense que là je fais le pigeon.
Tu crois vraiment?
Ouais, mais ça c'est mon cœur de fan d'Animal Crossing qui y croit. Ou alors s'ils sortent une nouvelle révolution de Zelda dans la même tranche que Zelda Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, pas forcément exactement la même chose, mais dans le même délire.
Ils ont dit qu'ils ne le feraient pas pour le coup.
Je sais pas.
Pour le coup, ils l'ont dit. Ils ont dit qu'ils avaient sorti deux jeux comme ça et qu'après ils partaient vers autre chose.
Oui, ils vont partir sur autre chose, mais je veux dire dans la même tranche.
Oui.
Mais au niveau impact.
Oui.
Je veux dire, c'est pas pareil. Zelda Tears of the Kingdom, par exemple, et Zelda Echoes of Wisdom, c'est pas le même impact, c'est pas la même durée de jeu, de temps de jeu, c'est pas la même chose. Même si j'aime les deux, on va être honnête. Mais du coup, c'est pas pareil. Mais du coup, si c'est des jeux comme Zelda Echoes of Wisdom, je suis pas sûre que je l'achèterai en mode, oh my god, il me le faut absolument. Par contre, si c'est des jeux plutôt dans la même globalité que Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, qui sont des jeux qui me parlent beaucoup plus, là, je serai en mode...
Évidemment. Évidemment. Et puis même moi qui râle, enfin, j'ai des jeux qui me tentent bien. Il y a le jeu qui est clairement inspiré de Bloodborne, qui me tente bien. Après,
oui, il a l'air trop bien.
On pourrait parler de ce jeu-là, mais aussi on pourrait parler de Night Rain, qui personnellement me tente beaucoup, mais qui fait peur à beaucoup de personnes. Et je le comprends, de rendre le jeu beaucoup plus facile parce que, bah, il parle pas au plus grand nombre. Beaucoup de personnes n'ont pas fini Elden Ring. Beaucoup de personnes n'ont jamais fini en Souls parce que, bah, c'est dur. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont peur que du coup ça parte là-dessus et que le fait que ça aille sur Switch, tout ça, c'est des conneries. Pour le coup, je trouve que c'est plutôt des conneries. Mais dans l'ensemble, si tu veux mon avis, je pense qu'on nous prend pour des cons et je pense qu'on nous prend pour des vaches à lait. Et je pense que tout le côté aussi qu'il y a avec les US, on va pas rentrer dans la politique, mais on va dire que voilà, toutes les taxes qui sont en train d'être mises ensemble pour des raisons qui sont complètement débiles n'aident pas.
C'est compliqué.
Mais c'est disons que c'est du pain béni pour les éditeurs de jeux vidéo pour faire ça. Et enfin voilà, du coup personnellement j'attendrai le retour. Je crois que si je l'achète, je l'achèterai en occasion parce que vraiment plus ça va, plus vraiment la politique des Nintendo commence à me péter les burnes.
Ouais, aussi, ouais, si on peut la trouver en occasion, pourquoi pas. Après, je suis encore traumatisée des occasions de la période Covid.
Oui.
Quand on avait essayé d'acheter la Nintendo Switch première du nom et que ils vendaient littéralement parce que c'était le Covid des particuliers vendaient leur Switch 1 000 euros.
Ouais,
mais on roulait sur la tête.
Tu sais qu'on en a parlé, en fait, c'était pas spécialement des particuliers, c'était beaucoup de scalpers, en fait, qui en avaient acheté.
C'est quoi, genre, des scalpers?
Des gens qui achètent, on voit ça beaucoup dans les trucs de collection, notamment. Gens qui en achètent, genre, beaucoup, et qui leur vendent beaucoup plus cher parce que, bah, du coup.
Pour se faire une marge.
Oui, voilà, pour se faire une marge, mais c'est pas une marge qui est décente. On voit ça notamment beaucoup, petit virage, on voit ça beaucoup dans Warhammer parce que, quand ils sortent des livres, notamment, en fait, ils en sortent à très petit lot. Ils sortent un truc comme 1500 ou 2000 livres, un truc comme ça parfois.
Ah oui.
Et t'as quelqu'un qui en achète 300 et qui va les revendre 3 fois le prix. Mais ça, c'est encore un autre sujet.
C'est comme les cartes Pokémon.
C'est comme les cartes Pokémon où t'achètes des displays et que ça vaut genre X centaines d'euros. Ouais. Alors que, bah, littéralement, déjà les cartes Pokémon ça coûte cher. Mais ça, c'est un autre, autre débat. On a des amis qui le font, qui en parleraient beaucoup mieux que nous. Mmh. Et si un jour ça vous intéresse, on les fera venir. On fera venir un hibou et on fera venir. Et on fera venir Guigny qui sera très content, à mon avis, d'en parler. Je suis en train de voir le temps et on va tout de suite lancer notre première pause musicale.
Oui.
On se retrouve juste après et on se retrouve tout de suite avec Tank de Seatbelt qui est du coup dans Boy Bebop. Des bisous tout le monde et à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Let's jam.
on est de retour. Est-ce que ça vous a plu? Personnellement, c'est terrible que Cowboy Bebop, donc forcément, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Mais on pourra vous parler de Cowboy Bebop une autre fois dans la chronique, si ça vous intéresse, de Pop and Clap. En attendant, nous, on se retrouve juste après le générique pour Qu'est-ce qu'on lit. Et aujourd'hui, il y aura du super-héros et il y aura un petit débat rapide. Mais on verra encore une fois de quoi est-ce que ça parle. À tout à l'heure, des bisous.
Préparez vos marque-pages, c'est l'heure de Qu'est-ce qu'on lit avec JR.
Petit problème, les aléas du direct évidemment. Et aujourd'hui, dans Qu'est-ce qu'on lit, de quoi est-ce qu'on parle? Aujourd'hui, on va parler d'une série qui, à mon avis, est quand même assez connue. Dans le sens assez connue, dans le sens où elle a eu tout simplement une bonne série animée, mine de rien. Je parle évidemment de Invincible, qui est en comics avant tout, mais qui a aussi été une très très bonne série sur Amazon Prime, tout simplement, qu'on a regardé avec Mel. Mel n'a vu que la première saison, si je ne me trompe pas. Moi, j'ai lu le comics, mais j'ai pas encore regardé tout ce qui va se passer. Mais Invincible, qu'est-ce que c'est? Parce que je suppose que vous ne l'avez pas tous, que vous ne savez pas tous ce que c'est. Invincible, c'est un comics qui a été écrit par Robert Kirkman, qui est aussi connu pour The Walking Dead. Et encore une fois, pour The Walking Dead, lisez le comics et ne regardez pas la série. Ça a été dessiné par Corey Walker, puis par Ryan Otley. Et c'est une série qui est assez longue, en sachant qu'il y a 144 numéros. Et ça a été publié chez Image Comics, qui pour moi est le meilleur éditeur de séries de super-héros américaines, bien meilleur que le Big Two. Et pourtant, on n'en parle pas assez. Je vous conseillerais de pas acheter les petits tomes, mais d'acheter les intégrales. C'est ce que j'ai fait personnellement. Et franchement, c'est de la très très bonne cam. Mais encore une fois, de quoi est-ce que ça parle? C'est une série de super-héros, mais c'est vraiment une série qui parle de beaucoup plus de trucs que simplement des super-héros. C'est une lecture qui personnellement a été marquante et ça a été mon coup de cœur personnel de 2024. Pour ce qui est de l'univers, c'est un monde de super-héros plutôt classique au premier abord. Il est riche, il est cohérent et surtout, il est évolutif. C'est un bon mélange entre comics US traditionnels et un ton qui est un peu plus moderne. Il y a beaucoup, beaucoup de références. On va parler il y a des références à Superman, à Teen Titan, entre autres, mais aussi par exemple à Spawn. Il y a un ton qui est mature, mais qui n'est pas cynique comme dans The Boys, ce qui fait que moi, en fait, The Boys me rebutait, mais pas Invincible. Et, pour l'ensemble, voilà, qu'est-ce que c'est l'histoire? L'histoire, on va tout simplement suivre Mark Grayson. C'est un anneau normal qui va obtenir des pouvoirs et qui est le fils du plus grand super-héros de la planète Terre, Omni-Man. Forcément, on va le suivre du coup dans son entraînement, dans ses premières missions, dans son équilibre difficile, dans un équilibre un peu compliqué à faire entre vie perso et vie de super-héros. Et surtout, il va y avoir beaucoup, beaucoup de révélations, notamment une révélation majeure liée à son père. Mais encore une fois, on ne va pas vraiment en parler plus que ça. Mais voilà, tout l'enjeu en tout cas de la première partie va parler d'un conflit idéologique entre le père et le fils qui est très bien amené et qui est très intéressant. Et ensuite, on va toujours avoir des enjeux qui seront un peu plus classiques dans le sens des enjeux galactiques, mais qui restent toujours très personnels, et ce qui est agréable parce que ça nous permet de mieux nous attacher au meilleur personnage et peut-être d'un peu plus nous projeter par rapport au personnage. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont très très intimistes. Ça parlait de relations familiales, de relations parents, père-fils ou même entre frères et sœurs. Ça parlait d'amitié, ça parlait d'amour et ça parlait de trahison. Ça va parler aussi de tout ce qui est question du libre arbitre et de l'identité. Est-ce que on doit suivre en fait la route qui nous a été tracée ou est-ce qu'on a le droit d'avoir le choix? Et ça va nous parler aussi de tout ce qui va être relation héros contre humain, tout ce qui va être et du coup ça va nous parler de moralité et de tout ce qui est lié souvent qu'on ne voit pas dans les super-héros, de toute cette zone grise et de l'impact que va avoir le monde super-héroïque sur le long terme. Comme d'habitude, on va parler quand même des dessins, parce que les dessins sont très dynamiques, lisibles et surtout très expressifs. On va commencer avec des dessins, du coup, comme dit, de Corey Walker, qui sont beaucoup plus sobres. qui sont beaucoup plus sobres, alors que le style de Ryan Otley est beaucoup plus brutal et spectaculaire, désolé. On a une violence qui est tout de même très graphique, mais qui est quand même très maîtrisée. Encore une fois, je suis un hater de The Boys, hein, désolé. Et j'ai trouvé les dessins beaucoup plus beaux et la violence beaucoup mieux maîtrisée que dans The Boys, dans le sens où c'était pas toujours du over the top, qui était parfois un peu décevant, selon moi, ou qui était juste en mode, c'est tellement violent que ça n'a plus trop d'impact. Je sais que les fans de The Boys ont me sauté à la gorge. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Sinon, ce qui est très bien, c'est qu'il y a une très bonne évolution du trait au fil des tomes. Et on a des chara-design de personnages qui sont très très cool. Et surtout, quand on regarde en fait les héros qui vont être introduits à travers le temps, on va pouvoir remarquer, si on fait attention, qu'il y a certains costumes qu'on a déjà vus par le passé, ou d'autres choses qui seront introduites un peu plus tard, qu'on aurait pu peut-être voir un peu plus tard. Alerte spoiler pendant 2-3 petites minutes, parce qu'on va devoir parler quand même du conflit idéologique entre le père et le fils. Je trouve que Omni-Man est un très bon antagoniste. C'est à la fois une figure paternelle, charismatique, et c'est aussi une vraie menace. C'est pas juste un méchant qui est démuni, c'est pas juste un méchant qui est en mode agro-gou, je suis méchant. Il a des motivations qui sont complexes, et il a une vision qui est très impérialiste de la puissance, et ça nous met face à des dilemmes qui sont moraux et à des chocs psychologiques qui sont très bien amenés et qui sont très bien traités. Il va revenir plus tard dans l'histoire, je ne dirai pas comment, mais il aura son arc de rédemption qui est très cool à suivre aussi. Et voilà, pour ce qui est des petits défauts, il y a certains twists qui sont quand même assez attendus, il y a certains archétypes qui sont parfois un peu trop évidents, et il y a quelques arcs secondaires qui sont un peu moins passionnants, c'est encore une fois que mon avis. Il y a à travers des tomes parfois, on va dire, un rythme qui est assez irrégulier, et je trouve que la série a bien changé ça par rapport à ça, et il y a certains tomes qui sont un peu plus creux, mais encore une fois, dans une série qui est longue, c'est normal, mais ça reste un point négatif dont il faut parler. Et pas des moindres, je dirais peut-être que la longueur peut en décourager certains, mais croyez-moi sur parole, ça en vaut vraiment le coup. On va quand même parler d'un autre point positif que je trouve quand même bien, ce sont les personnages secondaires. On peut parler des gardiens du globe qui personnellement étaient pour moi une très bonne surprise au début et qui malheureusement n'ont pas été assez développés, mais je ne vous dis pas pourquoi. Après, sinon, on va parler de Rex, on va parler de Duplicate, on va parler d'Atomev, on va parler de robots. Alors, ils sont pas tous aussi bien développés. Il y a des développements de personnages secondaires qui sont inégaux, mais ils restent tous très intéressants. J'ai un petit coup de cœur pour Robot. Je ne vous dirai pas pourquoi, parce que je veux que soit vous regardiez la série, soit vous lisiez le comics. Et oui, voilà, certains, je regarde mes notes, et oui, certains gagnent vraiment, vraiment de l'intérêt avec le temps. Pour le coup, Marc reste quand même le cœur émotionnel. C'est vraiment un très bon personnage principal qui est imparfait et qui n'est pas un Superman bis qui est agréable à voir de temps en temps. Et sinon, écoute, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a une très bonne diversité d'un point de vue figure super-héroïque et de vilain. Et pour moi, ça, si vous aimez les super-héros, c'est une lecture qui est vraiment, vraiment indispensable. C'est un très bon comics, il y a un mélange très subtil de fun, de drame et de réflexion. Et voilà, c'est une très bonne lecture, ça se lit vite, c'est adapté à beaucoup de tranches d'âge, encore une fois, pas aux plus jeunes, mais dès qu'on est adolescent et qu'on peut un peu lire et tanker, on va dire, la violence, c'est quelque chose qui nous permet de nous voir. Personnellement, je lui mettrais en très très bon 8 sur 10. Et si je devais donner une phrase de fin, c'est que Invincible est à ce Superman ce qu'aurait pu être Superman avec des tripes. Voilà. Et du coup, est-ce que vous, ça vous tente quand j'en parle? Et est-ce que toi, du coup, Mel, ça te tenterait de reprendre la série ou de lire le comics?
Ça me tente de lire le comics. Faut que je me motive parce qu'il y a quand même beaucoup de pages dans un seul tome, vu que c'est des intégraux. Mais ouais, faut que je me motive. Mais sinon, ouais, ça me tente bien. Peut-être recommencer la série. Alors attention, la série est extrêmement glauque. Gore, pas glauque, mais gore.
Oui, elle est gore, mais elle est moins gore que dans The Boys, par exemple.
Ah oui, mais j'ai pas vu The Boys, donc ouais, je pourrais pas te dire.
Personnellement, vraiment, je sais que beaucoup de personnes adorent The Boys. Et avis, pas constructif et pas populaire. Je me suis fait chier devant.
J'ai pas regardé.
Ouais, voilà. Donc, on en parlera une autre fois si vous voulez. Peut-être que je redonnerai sa chance si vraiment vous en avez envie. Et je sais qu'il y en a certains là qui écoutent, qui sont en train de bouillir. Mais voilà, personnellement, pour moi, The Boys surcoté. Et encore une fois, surcoté, ça ne se dit pas parce que si ça a son public, c'est que ça le mérite. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Est-ce que je passe à la prochaine chose ?
On peut aller passer à l'autre chose.
Ok, on va parler du coup du deuxième œuvre de cette fois-ci, et c'est un peu particulier dans le sens où c'est une œuvre que j'ai personnellement beaucoup aimée, mais aujourd'hui je ne pourrais pas vous la recommander. Aujourd'hui, on va parler de Act Age. Act Age, c'est quoi ? Act Age, c'est un manga sur le cinéma et sur les coulisses du showbiz, mais c'est un manga qui a été annulé. Ça a été annulé pourquoi ? J'en viendrai à dire, je vous l'expliquerai pourquoi, mais dans un premier temps, qu'est-ce que c'est Act Age ? Vous verrez que je suis un peu plus réfléchi dans ce que je vais dire là, parce que on va parler de sujets qui sont un peu plus graves. Act Age, c'est un shonen, et qui est un peu différent, parce que dans Act Age, il n'y a pas de bagarre, entre guillemets. C'est un shonen sur le jeu d'acteur et sur du drame psychologie. Pour ce qui est de l'histoire, on va suivre Ken Yonagi, une jeune fille qui est une prodige dans le jeu, dans l'acting, et on va la suivre du coup avec sa méthode de jeu ultra instinctive. Elle devient son personnage et on va suivre son ascension dans l'univers du cinéma japonais. C'est un manga qui est très centré sur les émissions et sur les en deux trois quatre sur les émotions et sur les enjeux intimes. Et le monde du cinéma est montré de manière très réaliste et avec ses exigences et ses codes. Et si je ne me trompe pas, en fait, l'auteur à la base était dans le cinéma, ce qui fait qu'il peut très bien en parler. C'est au dessin, c'est signé par Shiro Uzaki et ça a été les dessins sont vraiment genre un des plus gros atouts du manga parce que ils sont beaux, ils sont expressifs, et ils sont dynamiques. Vous remarquerez que je n'ai toujours pas dit qui était l'auteur ou le scénariste de ce manga. Et je ne l'ai pas fait parce que actuellement, c'est à cause de lui que le manga a été annulé. L'auteur en question, c'est Tatsuya Matsuki. Et en 2020, il a été accusé d'avoir suivi puis pris des photos sous la jupe de deux collégiennes. Il a été reconnu coupable et condamné à un an et demi de prison avec sursis. Ça a eu comme conséquence immédiate que la Shueisha annule immédiatement le manga. Tous les volumes ont été retirés de la vente et il y avait un projet de pièce de théâtre qui a été annulé. Pour ce qui est de Shiro Uzaki, du coup, la dessinatrice, elle n'est pas impliquée. C'est important de le dire parce que voilà, c'est quelqu'un de vraiment très talentueux. Et elle a évidemment exprimé son soutien aux victimes et elle a accepté la fin du manga avec dignité. La question, du coup, c'est, peut-on séparer l'œuvre de l'artiste, parce que c'est chiant. Act Age, moi j'aime bien. Act Age, c'est un très bon manga et j'aimerais bien pouvoir vous le recommander, mais est-ce que je peux encore vous le recommander et est-ce que je peux encore aimer son œuvre et consommer cette œuvre sans soutenir l'auteur? Il y a des arguments que je suis prêt à entendre du style que l'œuvre est bonne et la dessinatrice elle a rien fait. Et du coup, en faisant ça, en fait, on salit sa propre œuvre et on salit sa carrière. Et qu'elle a un vrai réel talent et que le message restait très puissant. Mais à côté de ça, en achetant et en lisant cette œuvre, je donne un soutien directement à un agresseur qui est l'auteur. C'est un agresseur sexuel, il a été reconnu comme agresseur sexuel, donc on peut dire les mots. Ça risque de banaliser ses actes et c'est très important, on le répète encore une fois, de croire les victimes et de les respecter. Personnellement, moi, j'ai choisi de vous en parler parce que je pense que c'est intéressant, mais de ne pas vous le recommander. Et pourquoi est-ce que je trouve que le cas Act Age est important? Parce que de ce que j'en ai vu, le fait que le manga ait été annulé et qu'il était tout ça, c'est une anomalie. Il y a eu pas mal de cas similaires dans l'industrie du manga japonaise, qu'on rappelle est une industrie qui est principalement masculine, et pour autant il n'y a pas eu de réel impact sur l'auteur. Si vous voulez des sources, je peux vous en donner évidemment. On peut parler de deux cas qui sont plus ou moins connus, qui sont même très connus parce que c'est des mangas qui sont très communs. On va parler de Nobuhiro Watsuki qui a écrit Kenshin le Vagabond. Kenshin le Vagabond qui est un pilier, qui je pense plutôt aussi mêle, est en animé et en manga que t'as lu et que t'as beaucoup aimé. Non, tu me fais non de la tête. Je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont lu et qui ont aimé. C'est un très bon manga. C'est un manga qui prend en trip. C'est un manga qui personnellement a fait une partie de mon enfance et de mon adolescence. Nobuhiro Watsuki, Et il a été chopé en possession d'images pédopornographiques. Il était condamné à une amende et son manga continue sans aucune interruption. Pire que ça, certains grands noms du manga le remercient encore. On va parler des Shiro Oda, qu'il a encore remercié il n'y a pas longtemps, parce que c'était son mentor. Et que du coup, il l'a remercié. Et ça aurait dû stopper sa carrière. On parle d'images pédopornographiques. C'est pas Joel Rigolo qui a juste trouvé une photo d'une actrice porno sur Pornhub. On parle d'enfants. C'est pas un sujet anodin, désolé. Petit moment énervement. Et pourtant, il continue comme si rien n'était. Et les personnes qui me diront, c'est une autre culture? Non! La pédopornographie, c'est reconnu comme un crime là-bas aussi. C'est pas une autre culture. On parle d'enfants. C'est pas normal que quelqu'un se LeBron James le Bamako sur des enfants. On peut parler aussi de Mitsu Toshi Shimabukuro, qui est l'auteur de Toriko pilier, et qui a été condamné en 2002 pour avoir payé une mineure pour avoir des actes sexuels. C'est pas légal. Il est revenu plus tard avec un succès énorme. Il est revenu avec un nouveau manga qui a fait un flop parce que c'est de la merde. Mais il est revenu quand même et on le vendait comme le nouveau Naruto et le nouveau truc. C'est un agresseur sexuel, c'est un pédo. Et je trouve ça fou que aujourd'hui on ait une commu qui ne parle pas de ça et qui sont encore en mode oui, ben le manga on peut encore faire ça. Et on pourrait même parler d'autres auteurs. On peut parler de celui qui a fait j'ai oublié comment ça s'appelle maintenant, mais qui est dans un parti politique. Vous savez quoi, on peut parler de Medine Abyss avec ses jaquettes qui sont avec des mineurs ultra sexualisés. Mais c'est même pas un peu sexualisé, c'est que ça en est dérangeant. J'en ai parlé avec un ami qui est dans ma formation actuellement et qui m'a dit: je savais pas, j'aimais bien l'auteur, j'ai regardé la jaquette et la couverture. Heureusement que je l'ai pas acheté, je serais passé pour un puant, pour quelqu'un qui aime les enfants. Et cette personne est dans un parti politique contre une de ses principales trucs, c'est de continuer à ce que ce soit légal de faire des mangas avec des futas et avec des lolis. Et quand on regarde Made in Abyss, encore une fois, c'est bien.
Alors, excuse-moi, je t'interromps. Par rapport au futa, ça, c'est pas grave tant que ce sont des personnes majeures.
Tu sais que, encore une fois, alors ça, c'est mon avis et vous pouvez ne pas être content.
Tu me mets
en enfant avec comme excuse qu'elle a 3000 ans et que du coup, elle peut se faire.
Non, ça, c'est les lolis.
Loli et futa, c'est pour les hommes.
Ah non, pardon, Futa pour moi c'était autre chose.
Ok, non. C'est... Et du coup, tu me dis, mais un enfant, et tu dis, ouais, mais elle a 3000 ans, du coup elle peut se faire des boîtes par le haut, tout va bien, ta gueule. Non. Désolé, mais là encore une fois, oui, mes mots sont crus, mais mes mots sont justes. Et voilà, et pourtant, on voit que c'est encore beaucoup de trucs. Beaucoup de personnes ne savent, j'espère que les gens ne savent pas. Et l'excuse d'une autre culture, ça ne marche pas, parce que si il y a un parti politique pour garder ça, c'est-à-dire que même là-bas ça commence à poser problème. Du coup, je pense qu'il faut en parler, et du coup c'est plus encore une fois, on va dire, une réflexion un peu plus large, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est un milieu qui est très masculin, qui est très compétitif, et souvent on remarque que le succès protège les agresseurs. Est-ce que ce serait que dans le manga? Je ne le dirai pas. Après, il y a aussi le fait qu'ils ont une pression qui est en rythme, qui est énorme et qui est toxique. Eshiro Oda dort 3 heures par nuit. Oui, Mel, tu veux rajouter quelque chose?
C'est pas parce que t'as un mauvais rythme de travail, enfin, ou un rythme intense de travail, oui, que tu peux te permettre de faire des choses illégales.
Oui, exactement, voilà. Mais c'est ce que j'allais dire. Mais ça veut dire qu'ils ont un rythme énorme, ils ont une pression énorme, ils meurent jeunes en règle générale, mais ça justifie pas une impunité pour certains auteurs qui sont célèbres. Et sincèrement, la communauté manga commence à devenir de plus en plus grande. Et la vraie question, c'est est-ce que on a encore envie d'avoir cette image de puant, cette image de personnes qui sont en mode ouais mais ça va, c'est pas grave. Est-ce qu'on a encore envie d'être rattaché à ces personnes immondes à la Japan Expo qui te vendent des images de Anya qui moi elle a 3000 ans et qui du coup en fait permettent de faire ça. Est-ce qu'on a encore envie d'être rapproché de ces personnes qui ont ces putains de coussins qui s'appellent des putains de fap, des fap coussins comme ça? Est-ce qu'on a encore envie d'être attaché à ça? Moi, ma réponse, elle est non. Et c'est pour ça que même si le manga Act H est brillant, De toute façon, vous ne le trouverez pas. Mais moi, j'ai décidé de pas vous le conseiller. Et encore une fois, qui suis-je pour vous donner ça? Qui suis-je pour donner mon avis? Je ne suis qu'un humble connard qui tient une émission de radio. Mais voilà, c'est une bouteille à la mer. On n'avait pas beaucoup de temps pour en parler. Mel, je te laisse conclure et après on passera à la suite.
Oui, alors t'as quasiment tout dit. Moi, je suis du même avis. On ne peut pas dissocier l'artiste de l'œuvre. Oui, non, c'est bien ça.
Oui.
Oui. Parce que je sais que la dernière fois, je me suis trompée dans mon propos et je voulais dire l'inverse. C'est pour moi inadmissible, en fait, qu'en 2025, on puisse encore dire « Oui, mais c'est une autre culture » ou « Oui, mais il a fait ça, mais c'est quand même un chef-d'œuvre, etc. » Et c'est pas que dans le monde du manga. Hein. Y a des acteurs, il y a des réalisateurs, il y a... voilà,
on
en connaît, il y a du monde, il y a des politiciens. Et en fait, comme tout à l'heure, t'as dit « Le succès protège ». Effectivement, je me suis... Alors, j'ai regardé une vidéo qui en parlait il y a pas longtemps. Et c'est une fille qui disait qu'en fait, il y a des études qui ont été prouvées. Être riche te donne une immunité. Et une immunité, c'est plutôt une impunité. Et en plus de ça, c'est un peu, ça te donne des ailes et tu te crois capable et tu te crois autorisé à tout faire. Et ça a été prouvé que plus t'es riche, plus tu penses que tu as le droit de faire ce que tu veux.
Pas spécialement étonnant, mais là je vois le temps et je suis désolé, il faut qu'on aille, surtout que là on risque de dériver vers des sujets que j'ai pas spécialement envie qu'on traite, qui sont des sujets politiques.
Non,
Ah bon? Ah ok, je croyais. Mais c'est pas grave. De toute façon, je vois le temps, je suis désolé, je dois couper.
Non, mais
pas de soucis. Je dois couper
on
la chronique.
On me boycotte.
On te boycotte, on te fait taire. De toute façon, on se retrouve tout de suite avec une petite musique. Oh, est-ce que c'est étonnant qui vient de Riot Games? On va mettre Never Stop Me. On se retrouve juste après. Des bisous tout le monde. Et on se retrouve après, du coup, pour Pop and Clap. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Cute and a drama, only venom when I get my dues. Respect, I'm the next tycoon. Got a path full of greens, couple M's, my soul. And I believe it, do you see the confidence? Got some people waiting for me on the fence. I live it, never see me on the fence. Best believe it when I win, it's common sense. I'm designed to fight defeat, all demise. The best me, no fear, no compromise. 100 degrees, I breathe more to life. You should disconnect and throw in the wax. And a hand that's in this. Gotta back it up a high percentage. Got a heart in my sleeve, no stop. Stepping up to the sea, more shots, getting those I'm alive, unleashing the fire out in the wild. You can never stop me. Watch me dive and feel. Say, so they coming on the way up. A true fighter's what they always been afraid of. Cards had a close on my circle when I lay up. Switch the game every quarter like a time zone. Aim for the bus, tryna build up to this milestone. Pave the way with only items that I might own. Imagine what I'm about to do, be an icon. And the problem just the haters that I might know. It's in my shell. The way I'm about to make a movie with these lights. Know the one they be like me, they can try. All gold, everything when I write. Can repeat it, every legend gotta fight. A new world, when I flip, make it tight. And nobody doing minutes. Buckled up, going up like a bike.
I'm alive, unleashing the fire. Out in the wild. Up in the sky, into the light. Watch me dive and feel honest.
Et on est de retour. C'était Never Stop Me, qui est une musique du coup qu'on peut retrouver sur Wild Rift. Est-ce que ça vous a plu? Dites-le nous en commentaire. Et en attendant, nous de toute façon, on va se retrouver juste après le petit jingle de Pop and Clap. À tout à l'heure. Action, émotion et un peu de popcorn. Bienvenue dans Pop and Clap. Et du coup, aujourd'hui, dans Pop and Clap, de quoi est-ce qu'on va parler? C'est une très bonne question et je pense que vous ne le verrez pas venir pour une raison très simple, c'est que c'est une série pas animée et qui n'a pas beaucoup fait parler d'elle. Je parle évidemment de Paradise, disponible sur Disney+. C'est une série thriller politique qui était sortie le 28 janvier 2025 et qui a comme showrunner Dan Fogelman, désolé, qui est aussi connu pour This Is Us, que je n'ai personnellement pas vu. C'est une série, comme dit au début, qui est une série qui est vraiment passée sous les radars, mais c'est un vrai coup de cœur pour Pop Flash, pour moi, et je pense pour Mel aussi.
Oui, totalement.
Du coup, comme dit, c'est un thriller politique tendu, intelligent et plein de surprises. On a une ambiance qui est très très particulière, surtout grâce à un petit twist, rien de très très grave, mais on ne spoilera pas, qui arrive à la fin du premier épisode et qui change vraiment la perspective. Mais de quoi est-ce que ça parle, JR? Parce que c'est bien de nous parler de ça, mais on aimerait savoir de quoi est-ce que ça parle. Bah, tout simplement, on va y suivre Xavier Collins, chef de la sécurité du président des États-Unis, alors que le président est assassiné. Xavier se retrouve piégé dans une conspiration et doit fuir, enquêter, comprendre, et surtout il doit survivre parce que sinon il risque de crever et personne n'a envie de mourir. On a un rythme qui est véritablement haletant, qui ne redescend jamais et qui est vraiment, vraiment agréable à regarder. On ne s'ennuie tout simplement pas pendant les épisodes. Au niveau du casting, on retrouve Sterling K. Brown, qu'on a retrouvé aussi dans This Is Us, que je n'ai toujours pas vu, dans le rôle principal, qui est vraiment intense et bluffant. Je ne le connaissais pas, je n'ai pas été déçu et j'aimerais bien le voir dans d'autres trucs. Franchement, quand je vois en fait le casting, je me dis que j'aimerais bien regarder This Is Us. On retrouve James Marsden en président des États-Unis, qui est un personnage qui meurt au début et qui malgré tout évolue énormément. Et sinon on retrouve Juliana Nicholson, Sarah Chiani, Aliena Mastin, Percy Drake 4 et d'autres dans des rôles secondaires qui sont toujours très très bons. Même si les visages ne m'étaient personnellement inconnus, ils ont réussi à me captiver et franchement j'ai envie de voir plus de gens avec eux. Comme dit plus haut, ça a été réalisé par Dan Fogelman, qui a été reconnu pour son travail sur les émotions dans This Is Us. Ici, il prouve encore une fois qu'il sait gérer la tension, le suspense et la paranoïa. On a une ambiance qui est lourde, presque claustrophobe, et une direction artistique qui est vraiment maîtrisée. Comme d'habitude, 8 épisodes, format court, efficace et sans remplissage. Niveau point fort, comme j'avais dit encore une fois au début, on a vraiment un twist majeur qui est amené au début et qui relance en fait le tout. On a un vrai thriller pour le coup, avec des personnages qui ont chacun ses failles et ses dilemmes. Et encore une fois, le casting, il est lourd. C'est une série qui est vraiment originale et imprévisible. Et malgré un pitch de départ qui paraît vraiment très très classique, dans l'ensemble, c'était très très bonne surprise. Personnellement, j'ai un très très gros coup de cœur pour le président des États-Unis, qui au début, je le détestais, je trouvais que c'était un con, et à la fin, j'étais juste triste, et j'espère qu'on le verra encore plus. Niveau des points faibles, c'est trop court, 8 épisodes, on le répète jamais assez, mais ça passe à une vitesse, et on en veut plus, tout simplement. Et c'est un point faible sans vraiment l'être. Je dirais simplement que la saison 2 a été annoncée, mais je me demande comment ils vont le faire, parce que étant donné ce qui va se passer dans la saison 2, c'est dur de le faire sans vous spoiler, je me demande comment ils vont réussir à garder la même ambiance. Peut-être qu'ils vont complètement la changer, peut-être pas. Et s'ils la changent, ça peut être intéressant, parce que du coup visiblement c'est vraiment maîtrisé, du coup ça pourrait être intéressant, mais j'avoue que ça me fait un peu peur. J'ai énormément aimé les dernières scènes de fin, remplies de messages, remplies de trucs qui étaient vraiment très très cool. Et dans l'ensemble, c'est un bijou qui a été certes discret, mais qui a été, mon Dieu que ça a été bon. On est vraiment à la croisée entre un thriller politique et une série à twist, mais un twist bien fait, pas comme certains films de Night Shyamalan. Je sais que certains l'aiment bien, mais personnellement j'ai trouvé que parfois c'était un peu tiré par les cheveux. C'est bien écrit, c'est bien joué, c'est marquant, c'est une vraie surprise. 9 sur 10. Et toi, Mel, qu'est-ce que tu en as pensé?
Alors moi, j'ai adoré. C'était vraiment génial. Alors au début, t'as l'impression que c'est seulement un petit thriller. Et au final, je vais pas spoiler, mais il y a un autre genre qui se mêle au thriller. Et du coup, je trouve ça vraiment incroyable. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. J'ai adoré les personnages, notamment Xavier, donc le personnage principal que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le président, vraiment Bébou. J'ai envie de dire, c'est vraiment le président, c'est Bébou. Et c'est ça qui est fort, c'est un personnage, c'est le twist. Donc c'est pas le twist, c'est le synopsis de base de la série. Donc c'est pas un spoil. Le président est mort. Et pourtant, on arrive à être attaché à un personnage qu'on sait qui est mort. Et on se dit avec espoir presque, non mais peut-être qu'il n'est pas vraiment mort en fait. Alors que tu le vois, c'est dit, c'est le synopsis, c'est vu.
Imagine,
tu vois
le mauvais twist, il n'est pas mort. Oh,
en fait, c'était un clone.
Oh, je crois que j'aurais soufflé très fort.
Mais ouais, mais et c'est ça qui est puissant, c'est qu'en fait, on sait qu'il est mort. Donc tu te dis bon, bah voilà, et en fait, tu arrives à t'attacher malgré tout. Les méchants, tu te dis, c'est forcément cette personne-là, et puis au final, non.
J'ai un méchant qui, personnellement, m'a beaucoup, beaucoup marqué et qui fait partie de mes méchants préférés. Je pense que c'est Sinatra, sans déconner.
Franchement, ouais.
Méchant
elle
très
est
humain, très,
très,
très cool. Et voilà, je suis désolé, j'ai encore le temps et faut qu'on enchaîne. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter, Anna?
Regardez Paradise parce que je pense que ça mérite d'être regardé.
Ok, je n'ai rien à rajouter. Je suis désolé, c'est un peu la course, mais du coup, dernière chronique, on va parler de JDR et on va parler de Cat, mais encore une fois, ça, on le verra après le jingle. À tout à l'heure.
La chronique JDR lance les dés avec JR.
Et on se retrouve tout de suite et aujourd'hui on parle de quel JDR? On parle de cats en JDR ou on parle où on va jouer des chiens? Non, attendez, j'ai pas vu mes notes. Aujourd'hui on parle de cats en JDR évidemment où on va jouer des chats. Est-ce que vous aimez les jeux de rôle d'enquête? Oui. Vous trouvez Vampire la Mascarade un peu trop sombre et un peu trop classique? C'est pas vrai, mais oui. Vous adorez les chats? Oui. Alors vous avez craqué pour Cats, la mascarade, le JDR, où les félins dirigent le monde dans l'ombre. Ça a été créé par Vincent Mantier, alias Tlon Ukbar. Peut-être que je l'ai mal dit, je suis désolé. Et si j'ai pris un accent, je suis désolé aussi. La première édition a été faite sur les éditions Icar en 2011, puis rééditée en 2022 chez Black Book Edition, comme d'habitude, j'ai envie de dire. C'est un univers qui est très original, qui est très décalé, qui est plein d'humour, mais qui n'est pas dénué de tension. C'est inspiré de Vampire la Mascarade, mais avec un twist un peu plus poilu et félin. Le pitch, qu'est-ce que c'est? Les chats ont créé les humains, il y a bien longtemps, pour se faire servir. Mais une catastrophe, le grand cataclysme les a contraints à vivre dans l'ombre, masquant leur intelligence. Depuis, ils maintiennent la mascarade pour protéger leur existence, pour garder leur existence secrète. Les joueurs incarnent des chats agents secrets, enquêteurs, manipulateurs et espions. C'est un jeu de rôle qui n'est pas du tout axé sur la baston ou sur le combat pour une raison très simple, c'est qu'un chat qui se prend une miche, il va se barrer. Ce qui fait qu'on a beaucoup plus en focus sur l'enquête, sur la manipulation et sur les alliances félines. Malgré tout, on a quand même une tension entre certaines races de chats et entre les humains. Et c'est un jeu que je trouve vraiment idéal pour du roleplay et pour des scénarios d'infiltration, de politique, de trier et de thriller animalier. Le système de jeu est très simple et fluide. On utilise 2d6 pour les tests de compétences. On ajoute des bonus ou des malus selon la caractéristique. Miaulement, griffure, ronronnement par exemple. Des pouvoirs psychiques appelés psychocats qui varient selon les lignées. Ça peut aller du chat de Schrödinger, ça peut aller par le contrôle mental, ça peut aller par l'arrêt du temps carrément ou tout simplement par se rendre immatériel. C'est un univers et un système qui est très très accessible et surtout dans le guide de jeu, il y a 2 enquêtes qui sont très cool et notamment il faut sauver le chaton Ryan. Pas du tout une référence à il faut sauver le soldat Ryan, pas vrai? Pas vrai? Ah, je suis peut-être un peu bête, mais ça c'est en détail. Comme je le disais, bah, du coup, dans le livre, vous y retrouverez de quoi faire votre background, la création de personnages, des scénarios d'introduction, mais aussi des règles simplifiées. C'est un univers, encore une fois, qui est très, très riche, avec plusieurs factions féminines, les chats de gouttière, les siamois, les élégants. Et avec mes petits préférés, les pantouflards, qui sont en mode, les humains sont là pour nous servir, alors ils vont nous servir et on va pas en branler une, tout simplement. Ce que je comprends, moi je pense que si j'étais en chat, je serais chez eux. Mais il y a aussi ceux qui veulent tout simplement éradiquer l'humanité parce que l'humanité est à l'origine du changement climatique et que du coup, pour régler le changement climatique, pourquoi pas tout simplement tuer tous les humains ? C'est une question qui pourrait plaire à Thanos. Personnellement, je ne pense pas que ce soit la meilleure des idées. Mais autre chose qui est très intéressante dans Kat la Mascarade, c'est qu'il y a des chats. Il y a aussi ce qu'on appelle des bassets, si je ne me trompe pas, des basse-têtes, qui sont tout simplement des chats qui ont décidé de contrôler mentalement des humains et qui sont restés bloqués. Ce qui fait qu'il peut y avoir des chats humains qui vont nous aider, mais on peut aussi interagir avec certains pans de la population, que sont les enfants et les très vieux. La folle à chat, vous voyez la folle à chat parler avec ses chats en mode « Ah oui, hein, il m'a répondu !» Pour vous, vous êtes en mode « Ah, Martine est devenue folle ?» Non, Martine n'est pas devenue folle. Simplement, le chat lui a répondu et vu que personne ne la croit, ça l'arrange bien. D'un point de vue purement JDR, ça a été un vrai coup de cœur dans les années 2024. Pourquoi ? Parce que c'est drôle, c'est malin et c'est bien écrit. C'est très immersif et c'est accessible à tous. Les chats sont forcément adorables et inquiétants. Et voilà, il y a plein de bonnes idées. C'est un très bon univers pour des one-shot ou pour des mini-campagnes qui nous permettent un peu de décompresser après, admettons, une grosse session de D&D ou des chroniques de Sika. Attention, ça va bientôt sortir. Mais voilà, à qui est-ce que je le recommande ? Je le recommande vraiment aux fans de jeux narratifs et aux amoureux des chats parce que je pense que c'est le plus intéressant. Vous ne jouerez pas des chiens. Parce que forcément les chiens sont débiles et dans l'univers en tout cas, je ne dis pas que les chiens sont débiles en règle générale, mais dans l'univers les chiens sont débiles et ils sont méprisables et il faudrait les voir morts. Je ne suis pas d'accord avec ce que je dis là. Attends, encore une fois, je parle comme un chat dans l'univers de Kat la Mascarade. Ne détournez pas ce que je viens de dire maintenant. Merci. Et voilà, tous ceux qui veulent incarner des chats télépathes qui magouillent dans le dos du monde et qui se battent avec d'autres chats pour gouverner le monde, c'est un univers pour vous. Mais du coup, toi Ahmed, est-ce que ça t'a tenté?
En tant que fan de chat et de ce qu'on pourrait appeler follow chat, oui, je veux jouer à ce JDR qui a l'air vraiment bien.
Je pense qu'on y fera probablement une partie de jeu de rôle avec Guigny et avec un hibou.
J'ai une question, est-ce que c'est adapté pour des one-shots ?
C'est tout à fait adapté pour des... Je dirais même que c'est bien pour des mini-campagnes, mais c'est très adapté aux one-shots, vraiment.
D'accord. Ok, ça me botte bien.
Et autre chose qui peut être bien aussi, c'est que tout simplement, on a quand même un univers qui est adapté aux enfants. Alors certes, les chats sont méchants, ils complotent dans l'ombre parce qu'ils sont très très méchants et qu'ils contrôlent les humains, mais on a quand même un univers qui peut être adapté aux enfants pour par exemple une première session de jeu de rôle, parce que règles simplifiées, et surtout jouer des chats, c'est toujours très bien. Autre univers que je recommanderais pour les enfants et qui est un peu en fait avec les... avec l'univers un peu félin, c'est Donjons et Chatons. Mais ça, on en parlera une autre fois, et je sais que quand j'aurai des enfants, à partir de leurs 5 ans, ils vont jouer à Donjons et Chatons. Est-ce qu'ils auront le choix ? Évidemment que non ! Quelle question ! Ce sont des gosses, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Je rigole, évidemment. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai fait le tour. Est-ce que Mel, tu veux rajouter quelque chose sur ça ?
Non, juste plus de JDR avec des chats. C'est juste incroyable.
On jouera à Donjons et Chatons, on jouera à Kat la Mascarade. En attendant, portez-vous bien. C'était Pop Flash pour la première émission de mai. On arrive bientôt à la fin de la saison, mine de rien. N'hésitez pas à nous faire des retours sur toutes ces émissions. Et moi, en attendant, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée. Il est 19h50 et quelques. Des bisous tout le monde et on se retrouve dans 2 semaines. Mel, le mot de la fin ?
Merci à tous et à toutes de nous écouter et à bientôt !
À bientôt, des bisous tout le monde !
Des bisous !